Donc l'Elou Nishmat, Hanania Ben Mazal et Mishpachat Ben David. Vous savez, monsieur Ben David m'a raconté, quand on était de retour, une autre Levaya, m'a raconté les grands mérites de son frère. Le nombre de personnes qui avaient, les centaines de personnes, le millier de personnes qui avaient à sa Levaya. Comment c'était vraiment quelqu'un qui était très organisé, quelqu'un qui a fait beaucoup de chesed et dans la discrétion. Ça m'a beaucoup, beaucoup marqué. Donc on va essayer, Bézrat Hashem, de dédier ce cours à l'Elou Nishmato. Et ce soir, c'est les Shloshim. C'est pour ça qu'on fait en particulier, c'est les Shloshim, c'est les 30 jours, qui sont célébrés au même moment en Israël, c'est ça? Ils ont dû finir déjà, à mon avis. Hein, voilà. Donc on s'unit à ce qui se passe en Israël, nous aussi, au travers d'un cours de Torah, l'Elou Nishmato. Le thème du cours d'aujourd'hui, vous avez des livres devant vous ici, pour ceux qui n'en ont pas. On va commencer un nouveau chapitre, le chapitre 33 du Tanya. Sur l'importance de la joie dans Avodat Hashem. L'importance de la joie dans le service d'Akadosh Baruch. Alors, comment il m'a dit, il s'appelait Hanania.
Hanania Ben Mazal.
Ben Mazal.
Ben David.
Hanania
Ben David.
Hanania Ben David. D'accord. Alors, en fait, pour commencer ce cours sur la Simcha, je voudrais commencer par une histoire. Une histoire qu'on connaît tous, mais à mon avis, on la décortique pas assez. C'est l'histoire de Yosef HaTzadik. Vous vous rappelez l'histoire de Yosef? L'histoire de Yosef. Yosef, il était jeune homme, il réussissait. Et sans le vouloir, il s'est fait les ennemis. Qui étaient les ennemis de Yosef? C'était ses propres frères. Vous connaissez l'histoire. Et donc... Non, je crois que c'est Maisonnette. Pizza Maisonnette.
C'est pas
Maisonnette,
je crois que c'est
Maisonnette. Non, les Maisonnettes, pizza. Maisonnettes, pizza. On a facilité la tâche. Donc, vous connaissez l'histoire. Yosef était en prison. Il était en prison alors qu'il n'a rien fait. Ses frères le détestaient. Ils ont voulu le tuer. In extremis, au lieu de le tuer, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu, il a fini par être revendu. Il a atterri en Égypte, et là en Égypte, il se retrouve chez Potiphar. Bon, il fait un truc, on ne sait pas trop, on l'accuse, il a même pas fait. Où il se retrouve? Il se retrouve en prison. Maintenant, qui va penser à lui en prison? Ses frères, son père, ils savent même pas qu'il est en Égypte. Ils l'ont abandonné. Donc Yosef a toutes les raisons au monde pour être déprimé. Et qu'est-ce qui se passe? Le texte nous raconte, dans l'histoire, il nous raconte que justement, quelques temps plus tard, alors que Yosef était en prison, et que bon, il était respecté en prison, il y a aussi le maître panetier et le maître échanson qui finissent eux aussi, ça arrive, qui finissent eux aussi en prison. Bon? Ils finissent eux aussi en prison parce qu'ils ont manqué de respect au roi, etc. Ils finissent en prison. Et le texte nous raconte, c'est un petit verset, nous raconte que un matin, Yosef se lève et il voit que le maître panetier et le maître échanson sont pas bien. Ils sont pas bien. Alors il leur dit, Madoua penechem raim ayom. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous n'allez pas bien? Qu'est-ce qui vous arrive? Alors, il leur pose cette question. Une fois, le rabbi a posé la question, il a dit, mais est-ce qu'on s'imagine le niveau, la grandeur de Yosef? Ce maître panetier et ce maître échanson, ils ont de la famille qui viennent les voir. Ils sont en Égypte. Tout le monde sait où ils sont. Et ils savent qu'un jour ils sortiront, parce que c'est des personnes qui sont très haut gradées, oui ou non, mais en tout cas c'est des gens que, bon, ils ont des hauts et des bas, mais bon, ils finiront par sortir. S'il y a une personne qui doit être déprimée ici, c'est qui? C'est Yosef. Parce que Yosef, il sait qu'il n'y a personne qui viendra le chercher ici. Et personne n'est intéressé par lui, c'est un simple esclave qui est terminé ici, et qui va probablement terminer sa vie ici. Normalement, lorsqu'une personne sombre dans la déprime, et devrait sombrer dans la déprime comme Yosef, non seulement qu'il est déprimé, mais il n'arrive pas à voir que les autres sont déprimés. Ça veut dire que pour lui, c'est moi qui ai des problèmes et personne n'a des problèmes. Tous les problèmes des autres sont petits par rapport à mon problème. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que non seulement Yosef HaTzadik ne s'est pas enfermé dans sa déprime, mais au contraire, il avait un œil assez regardant pour être capable de se rendre compte qu'un autre ne va pas bien. Et pour au quart de tour réaliser qu'il y a un problème, et lui dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu vas pas bien, et qu'est-ce qui va lui sortir l'autre, et dire oui tu sais je suis pas bien parce que j'ai fait un mauvais rêve. La vérité, moi à la place de Yosef, j'aurais dit quoi, t'as fait un mauvais rêve? Mais attends, moi, moi, c'est pas un mauvais rêve que je fais, moi, c'est ma vie qui est mauvaise. Et Yosef, on voit qu'il prend son temps pour essayer de lui dire, ah bon, t'as fait un mauvais rêve? Viens, on va essayer de parler. On va essayer de discuter. Raconte-moi ton rêve. Je vais essayer de le décrypter. Je vais essayer de te le raconter. Ça veut dire que Yosef est le prototype d'une personne qui nous montre comment, avec toutes les épreuves par lesquelles on peut passer, on peut garder la simra, on peut garder la joie, on peut garder l'empathie et on peut garder le regard positif envers les autres. Ça, Yosef, c'est vraiment le prototype de la simra. Ça veut dire que même s'il a rien fait, et les gens qui sont en face de lui sont des gens qui ont fauté envers le roi, même s'il a rien fait, il sait très bien que personne va le regarder, que personne n'en a à faire qu'il est ici, il n'en a rien à faire. On voit ici la hashkafa, la vision extraordinaire de Yosef. La vision extraordinaire de Yosef, que Yosef se dit, si je suis en prison, c'est pour une raison. Et c'est la raison pour laquelle, vous savez, ça c'est le, je crois que c'est le rabbi de Kotz qui disait ça, on a bien, hein, avec ça, on a bien le rabbi de Kotz qui disait comme ça. Il disait, quand vous voulez chercher dans la Torah une définition, je vous donne un scoop. Si vous voulez chercher une définition dans la Torah, par exemple la définition de la richesse, il faut aller voir quelle est la première fois dans la Torah a dit le mot richesse. Et quand vous regardez la première fois qu'a dit la Torah le mot richesse, autour de ça, vous allez comprendre comment la Torah voit la richesse. Alors écoutez bien. On va chercher maintenant la première fois dans la Torah que la Torah a employé le terme réussite. Vous savez c'est quand la première fois? C'est à propos de Yosef. Et dans quel contexte? Quand il était chez Potiphar, en tant qu'esclave. Alors sur ça, le rabbi de Kotz qui pose une question, il dit, mais attends, c'est ça la réussite pour nous les juifs? C'est quand t'es en prison chez quelqu'un? Quand t'es un esclave? Pourquoi Yosef? Et d'ailleurs, seconde fois où la Torah répète la réussite, lorsque Yosef était en prison, on dit qu'il réussissait. C'est ça pour nous la réussite? Être esclave ou être en prison? Après, on parle plus de réussite. En fait, c'est quoi la réponse? La réponse est très simple. C'est que la force de Yosef, c'est que partout où il était, qu'il soit avec ses frères, qu'il soit en prison, qu'il soit esclave, partout il se posait la question, il dit, qu'est-ce que je fais là? En quoi je peux me rendre utile? En quoi je peux me rendre utile? Et on voit comment, grâce à ça, la chance lui a souri, et qu'il a pu finir par accéder à des postes très importants, grâce auxquels il a sauvé le monde. Ça, c'est pour montrer l'importance, on va parler dans le cours d'aujourd'hui, de l'importance de la simra, que c'est quoi une personne qui est joyeuse? C'est pas une personne qui est joyeuse quand tout va bien. Ça, c'est facile d'être joyeux quand tout va bien. Bien sûr, il a gagné au loto, tout va bien, il s'entend avec sa femme, il s'entend avec ses enfants, là par là ça va bien, il a l'argent qu'il vaut. Bien sûr qu'il va être souriant. C'est facile d'être souriant dans un cas comme ça. Mais quand les choses ne vont pas comme il fallait, quand il est en prison, quand il est esclave, quand il est ce que tu veux, et que là, il a toutes les raisons au monde d'être pas bien, est-ce qu'il va être pas bien ou est-ce qu'il va être triste? Ou est-ce qu'il va être besimra? Et là, c'est l'enseignement de Yosef qui veut nous montrer comment on est besimra. Mais pour expliquer ça, comment appliquer ça dans la vie de tous les jours, ça il faut qu'on développe, mais avant ça, on va dire d'abord les chayim, maintenant qu'on a les dés. Alors, les chayim. Alors, l'Elou Nishmat, Hanania ben David ou Mazal?
Ben Mazal. Ben Mazal, le Mishpachat
ben David. Le Mishpachat ben David. Voilà. Ah, Ben David, d'accord.
Un peu de carburant.
Voilà. Alors, je vous sers les chayim, messieurs.
Voilà.
Je ne sais pas qui est plus âgé, qui est moins âgé. Hein.
À votre santé aussi. Hein.
Les chayim. Les chayim avec la simcha. Rabotai, vous savez, ce soir, c'est pour Im Katan. C'est pour Im Katan ce soir. Ça veut dire que c'est pour ça, cet après-midi, on n'a pas fait Tahanoun. Parce qu'on se prépare à la simcha de Purim. Donc, Be'ezrat Hashem, c'est très important qu'on parle de simcha ce soir. Qui n'a pas eu les chayim?
Voilà, tiens.
Tiens, on voit ici. Chayim. Je peux
servir ton papa.
Tenez, attendez, je me sers d'abord.
Qui en veut?
Voilà, les chayim. Servez.
Les chayim.
Allez, les chayim.
Chayim, les chayim. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא מיני מזונות
אמן
Tiens.
Bendit,
je crois.
Moi,
comme
pizza. Oui.
Non, pizza,
je prends après.
Merci.
Ça va être la guerre.
À droite.
Ah.
C'est caché.
Après, j'arrête
pas. Donc, ça veut dire qu'il faut. Non, on a dit. Attention, qu'est-ce qu'on a dit? Ça va dire, on n'était pas obligé de. Pas obligé de faire les chayim pour être bêtis, quoi.
Ouais, c'est plus facile.
Ça peut aider.
Ça peut aider.
Les Chaim. Bon. Alors on est à la... on va commencer Bezrat Hashem.
Merci.
Je sais pas, t'as une histoire.
Elle lui a pas dit.
Je devais mourir. Je
vais demander un nom.
Il y a de la place encore.
Ok, on y va?
On y va.
Allez, on y va. Perek Lamed Gimel, chapitre 33. Donc le but de ce chapitre 33... c'est d'expliquer comment arriver à une vraie joie. Quand je dis une vraie joie, ça veut dire une joie qui n'est pas conditionnée par les événements de la vie. C'est très compliqué ça. Être joyeux en toutes circonstances. Même quand la vie nous amène à des situations compliquées. Comment garder une simra intérieure, surtout que ce soir nous sommes pour Im Katan. Et vous savez, vendredi soir je l'ai dit, que la dernière halakha du Shulchan Aruch, Or HaChaim, il est écrit qu'à Purim Katan, il n'y a pas d'obligation de, bon, il n'y a pas d'obligation de faire un festin. C'est pas comme le Purim classique où il y a obligation de faire un festin, parce que cette année, il y a deux Hadars. Donc, ce soir, on est 14 Hadars 1. Donc, normalement, s'il y avait un seul Hadar, ce soir, on aurait dû lire la Megillah et faire le festin, etc. Donc, Shulchan Aruch nous dit qu'il n'y a pas d'obligation de faire de festin. Mais il dit, yesh nohagim, il y en a qui ont l'habitude de faire un festin. De faire un festin, même pour Im Katan. Et le Shulchan Aruch conclut ainsi en disant, Vetov lev mishte tamid, il est bon d'avoir toujours le cœur en festin, le cœur en joie. Très belle phrase. Ça veut dire que, est-ce qu'il faut faire un festin physique ou pas, c'est une question, il y en a qui vont dire oui, il y en a qui vont dire non. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que, il n'y a pas besoin de se faire prier pour faire la fête. Voilà, on dirait ça comme ça. C'est-à-dire, s'il y a une occasion de faire la fête, d'être Bessimcha, on est là, on est partant. Alors, aujourd'hui, on va parler maintenant de Simchat Nefesh Amitit. Une vraie simcha. Une simcha, la simcha de l'âme, d'accord? Amitit. Vraie simcha. Comment on peut avoir une vraie simcha? Alors il dit comme ça. Bifrat, et surtout, Kesheroe Benafsho Beiti Mezumani, d'autant plus quand une personne, il va voir dans son âme, Beiti Mezumani, à certains moments, Shitzarich les Akecha. Ou les Aira Besimchat Leva. Il y a des moments dans lesquels on a un coup de blues. Vous n'avez pas le chapitre 33 ?
C'est là ? T'as commencé par quoi ?
Otzot,
tiens. Otzot. Ah, d'accord.
Otzot. Ou bifrat, ksheroe, benavsho, beiti, mezumanim, shitzarich, les akecha, ou les arabes, simrat, les mal. D'autant plus, quand on passe par certains moments dans la vie, il y a des moments dans lesquels on sent qu'on n'est pas besimra. Sans avoir besoin que ma femme me le dise, ou que mes enfants me le disent, ou que mes collègues me le disent, il y a des moments où on sent, où je sens que mon âme est triste. Pourquoi elle est triste? Soit parce que je sens que j'avance pas assez, soit parce que les événements pas positifs qui sont passés dans ma vie, etc. Les raisons ne manquent pas. Comment faire dans ces situations-là pour quand même être besimcha, quand même avancer? Alors il dit comme ça. Ya'amik. Il faut dans ce cas-là s'approfondir. Machashavto. Approfondir sa pensée. Vedato. Veyetzayer besichlo ubinato. Inyan yichudo itbarech.
Ha'amik.
En fait, première technique, on va développer plusieurs techniques aujourd'hui. Tu sais à quoi tu dois penser quand tu sens que tu es pas bien? Il faut penser au fait que Akadosh Baruch Hu est un. Mais pas seulement qu'il est un. C'est que la vraie unicité d'Akadosh Baruch Hu, c'est de dire que le monde entier et tout ce qu'il contient, en vérité, fait partie de l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Pour rappeler, pour ceux qui étaient présents au cours, on avait fait chapitre 21, 22. On avait expliqué encore la pizza.
Oui.
Ah. Wow. Hein? Oui. Oh Hachem, alors. Laissez-moi après le courant. Alors, ne vous inquiétez pas.
Livré par le patron.
Livré par le patron, exactement.
Non, il ne travaille pas aujourd'hui.
Hein? Ouais. Alors, on a expliqué que à quoi il faut penser. Il faut penser à l'unité d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi l'unité d'Akadosh Baruch Hu? Il y a des gens qui pensent que ça veut dire quoi que Hachem est Had? Ça veut dire qu'il y a un seul Dieu et il n'y a pas de deux dieux. Mais la Chassidoute explique beaucoup plus que ça. Il dit, ça veut dire quoi que Hachem Echad? Ça veut dire que tout ce qui m'entoure, c'est Dieu. Le verre, c'est Dieu. La table, c'est Dieu. L'assiette, c'est Dieu. La nappe, c'est Dieu. Tout est Dieu. Moi, c'est Dieu. Vous, vous êtes Dieu. Tout le monde est Dieu. C'est ça, Hachem Echad. Hachem Echad, ça veut dire que tout est Dieu. Ça veut dire qu'en fait, quand je réfléchis comme ça, je réfléchis que tout ce qui peut m'arriver dans ma vie, qui c'est qui l'a amené?
C'est Dieu.
C'est Dieu.
C'est Dieu. C'est compliqué à dire ça. C'est la vérité, mais c'est compliqué. Imaginez, par exemple, vous étiez au boulot, il y a quelqu'un qui vous a fait une crasse. Ça peut arriver. Il vous a fait une crasse. De me dire que la crasse vient de Dieu, même si je sais que c'est vrai, c'est dur à accepter.
Quand c'est gentil sur cet exemple, ça peut être pire que ça.
Ça peut être pire que ça. Bien sûr. Ça peut être un meurtrier qui a tiré sur une gâchette et qui a tué quelqu'un. Se dire que ça vient de Dieu, c'est difficile. Mais d'après l'Admor HaZaken, si je ne passe pas par cette case, je ne peux pas avoir une vraie simra. Parce que si j'ai une simra qui est conditionnée quand tout va bien, dès qu'il y a un problème, j'arrive pas à être bien. La seule façon d'être réellement besimra, c'est de se convaincre et de se dire au fond de moi que tout ce qui m'arrive est décidé par un Kadosh Baruch Hu.
Si on a la foi, ben on le sait. Oui.
On le sait, on le sait, mais c'est facile à le dire quand tout va bien. Mais quand c'est difficile, quand les choses ne vont pas bien, c'est difficile à se dire ça vient d'un Kadosh Baruch Hu. Mais les situations, c'est très difficile. Mais ça, c'est la clé numéro un pour avoir la simra. La clé numéro un, de savoir que tout vient d'un Kadosh Baruch Hu. Vous savez, le fils de l'Admour HaZaken, le fondateur de le compilateur de ce livre, c'était l'Admour Haïm Tsaï. Et l'Admour Haïm Tsaï, qui était donc le fils de l'Admour HaZaken, pratiquement dans toutes ses drachotes, les drachotes du Shabbat, les drachotes des fêtes, tout le temps, qu'est-ce qu'il rappelait? Il disait, si les gens se rappelaient que tout vient d'un Kadosh Baruch Hu, ça réglerait tous leurs problèmes. Tout le temps, il répétait, même jusqu'à se faire lourd. Répétait le fait que tout vient d'Akadosh Baruch Hu et que tout ce qui nous arrive autour de nous, les événements positifs comme les événements moins positifs, tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Faut se rappeler de ça. Comment? Il n'y a rien qui n'échappe, Ras Veshalom, à Akadosh Baruch Hu. Alors ça déjà...
On était au Maroc, non? Et tout ce qui vient, on dit c'est le fait de Dieu.
Oui, mais le problème, c'est les éléments négatifs.
Il ne passe que c'est le fait de Dieu. Et on était habitués et éduqués de cette façon-là. Et là, maintenant, on entend parler, on entend que c'est la vérité. Voilà ce que je voulais dire.
Exactement. C'est-à-dire savoir que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, je voudrais rajouter un point important. Tout à l'heure, on a raconté l'exemple de Yosef, qui, d'après moi, est le prototype, comme on a dit tout à l'heure. Joseph, donc, est le prototype d'une personne qui arrive à rester besimcha, arrive à rester optimiste, arrive à rester confiant, même lorsqu'il n'a aucune raison d'être confiant. Sa famille l'a rejeté, ses amis l'ont rejeté, tout le monde l'a rejeté. In extremis, au lieu de le tuer, on l'a vendu. Et il est maintenant dans un endroit où personne ne le connaît. Alors en fait, je voudrais ajouter un point très important. Sur ça, le rabbi avait expliqué, il avait dit, quand on lit cette histoire, on se dit que Yosef, il est là, même quand il va pas bien, même quand la vie ne lui sourit pas, il va être là à regarder les autres et à voir comment ils vont. Alors on pourrait se dire, oui, tu sais pourquoi Yosef il est comme ça? Yosef il est comme ça parce qu'il se dit, t'inquiète pas, un jour ça ira bien, un jour ils me le rendront, un jour Dieu me le rendra. En vérité, la force de Yosef, écoutez bien ce que je vais dire, c'est très important, un bataille. La force de Yosef, c'est qu'il a une émouna, mais qu'il n'est pas en train de dire, j'ai la simra parce que un jour ça ira mieux. Non, c'est beaucoup plus fort que ça. J'ai la simra parce que je sais que ce que Dieu fait, le fait pour le bien. Peu importe si moi je comprends ou moi je comprends pas. Car c'est pas qu'il se dit, je le fais parce que un jour je comprendrai que ça ira mieux pour moi.
C'est-à-dire c'est pas calculé.
C'est pas calculé du tout. Yosef est une personne, tu le mets en prison, il réfléchit, qu'est-ce que Dieu attend de moi ici? Sans se dire, un jour je sortirai d'ici. Qu'est-ce que Dieu attend de moi maintenant? Il est maintenant esclave, qu'est-ce que Dieu attend de moi maintenant? Il est vice-roi, qu'est-ce que Dieu attend de moi maintenant? Chaque situation qu'il vit dans sa vie, il essaye de comprendre qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de moi maintenant. Une personne qui arrive à réfléchir comme ça, c'est une personne qui ne peut pas être déprimée. C'est une personne que chaque situation dans laquelle il se trouve, il réfléchit qu'est-ce que Dieu attend de moi maintenant. Je vais vous donner un exemple. Imaginez par exemple, vous êtes en route pour aller en vacances. D'accord? Imaginez, vous êtes en route. Je vais vous donner quelques exemples dans la vie pour montrer que c'est pas si simple, mais pour montrer comment c'est accessible. Imaginez, vous êtes en route pour aller en vacances. Vous prenez un avion. Et normalement, l'avion il doit vous faire 4 heures, 5 heures de route, arriver à destination. D'accord ? En cours de route, l'avion il est en pleine route. Le pilote, il prend, ça m'est déjà arrivé. Le pilote, d'accord, il prend la parole, il vous dit, écoutez, il y a un problème. S'il vous plaît. Il vous a dit les chayim ou pas?
Regardez, Michel.
Hein? Alors, le pilote, d'accord, le pilote, il prend la parole, il vous dit, messieurs, on va devoir faire une escale en Grèce ou je ne sais où. Et vous vous retrouvez à faire une escale, une galère que vous n'attendiez pas. D'accord? Franchement, quelle est la réaction classique? Bon, bien sûr, on n'a pas le choix, on va descendre de l'avion, etc. Mais on est énervé. On est énervé, on n'est pas content.
On ne sait pas ce qui se passe.
D'accord ? On ne sait pas ce qui se passe, on n'est pas content. Vous vous lancez dans une affaire, vous avez prévu quelque chose, vous avez prévu un plan, d'accord ? Étape numéro 1, étape numéro 2, étape numéro 3, et les choses ne se passent pas comme prévu. Il y a un imprévu. Réaction classique, ça m'énerve. Réaction classique, ça me tape sur le système, ça m'énerve. Comment réagit Youssef dans cette situation ? Youssef ne dit pas merci Hachem pour la galère, ça il ne dira pas. Ça, c'est pas chez nous, ça. Par contre, Youssef, il va se dire, écoutez bien ce qu'il va dire, Youssef. Il va se dire, si la galère m'est arrivée, c'est qu'il y a quelque chose. Il faut que je cherche. Qu'est-ce que je dois faire? Ça veut dire que Youssef, quand il prend la route, et que dans la route, il rate l'air d'autoroute, enfin, il rate, pardon, la sortie d'autoroute, et que vous savez, dans l'autoroute, quand on rate une sortie, des fois, ça peut nous coûter une heure ou deux heures de route.
40 km.
Et quel 40? C'est bien 40 km. Des fois, plus le péage, d'accord? C'est-à-dire, tu payes l'essence, le péage, les nerfs, et tout ce que tu veux.
Hein?
Et les flashs, exactement. Les flashs des nerfs parce que tu voulais accélérer. Et en plus, les embouteillages de l'autre côté. Voilà, bon. Alors, quand tu vois ça, si on réfléchit comme des hommes, qu'est-ce qu'on dit? Si on réfléchit comme des hommes, on va se dire, bah attends, ça m'énerve, ça me casse les pieds, pourquoi ça m'est arrivé, qu'est-ce que j'ai fait? Et dans ce cas-là, il se met à insulter tout le monde. Il se met à insulter sa femme, il dit, oui, c'est à cause de toi, tu me parlais, tu m'as énervé, à cause des enfants, vous avez fait du bruit. Tout le monde, sauf lui. D'accord? Le GPS, la voiture, les panneaux qui n'étaient pas assez bien éclairés, tout le monde. Ça c'est une personne qui ne réfléchit pas comme Youssef. Hein? Et la femme en première?
J'ai commencé par la femme, on semble fort
qu'elle. Il va accuser tout le monde. Ça c'est l'approche classique, comment tout le monde fait. Qu'est-ce que fait Youssef? Hein? Qu'est-ce que fait Youssef? Youssef il dit non. Youssef il dit, on va pas s'énerver. Si on est arrivé ici, si on a fait un déplacement dans cette aire d'autoroute, si on s'est déplacé, on a dû passer là, par là, c'est que certainement il y a quelque chose. Peut-être que Dieu voulait qu'on passe par là, il fallait qu'on arrive plus tard, il fallait qu'on passe par cette... Va savoir, j'en sais rien.
Éviter un accident?
J'en sais, peut-être. C'est-à-dire tout de suite, Youssef il dit, non mais plus que ça. Youssef il se dit comme ça. Youssef il se dit, si Dieu m'a fait un détour, une déviation, c'est qu'il y a un but. Pas seulement pour me sauver de quelque chose. Il attend de moi quelque chose.
Positif,
en quoi cette déviation peut me rendre utile? Qu'est-ce que je peux faire dans cette déviation? C'est-à-dire, il va se dire quelque chose. Peut-être que dans cette déviation, je m'arrêtais à une aire qui n'était pas prévue, et que grâce à ça, je parlais à quelqu'un, etc. Youssef, il se dit, si j'ai atterri en prison, il y a une raison. Si j'ai atterri en tant qu'esclave, il y a une raison. Si je suis vice-roi, il y a une raison. Chaque chose, il y a une raison. Il n'y a rien qui est sans raison. Quand on réfléchit comme ça, et qu'on essaie de trouver une raison à chaque situation par laquelle on passe dans la vie, on positive tout le temps et on déprime pas.
Oui, mais...
On déprime pas.
Bien
sûr. Attends, tu connais une galère plus pire que Youssef là? Ses frères lui en veulent tellement qu'ils veulent le tuer.
Il y a plusieurs situations, c'est des galères comme tu dis, c'est des vraies galères, ça embête tout le monde, mais c'est pas grave. Tu vas perdre un jour, il n'y a rien de grave, il n'y a pas une gravité énorme. Ça, on peut encore positiver en trouvant.
D'accord.
Après, tu as raison, il y a les vraies galères, se retrouver en prison,
il y a l'avocat qui est dommage collatéral.
Ah oui, qu'est-ce que Youssef, dis-moi, t'imagines? Il est là à se rendre compte d'une subtilité qu'ils ont fait un mauvais rêve.
D'accord, mais ça le touche lui. Alors qu'il y a, moi je trouve qu'il y a encore une troisième étape quand ça touche quelqu'un qui t'est proche. Tu préserves un parent ou un enfant.
Ah, oui.
Là, tu ne maîtrises pas, et je pense que là, tu as vraiment la tristesse. Elle est beaucoup plus dure à combattre.
Tu as raison. Alors, en fait, ce qu'il faut expliquer déjà, c'est que tristesse, alors c'est une très bonne question, il faut expliquer que tristesse et simra ne sont pas incompatibles. Ça veut dire, écoute bien ce que je veux dire. Je peux être en même temps triste, en même temps joyeux. En même temps triste parce qu'il y a une situation qui est arrivée qui me fait beaucoup de peine. Et en même temps joyeux profondément, puisque je sais que. Je suis confiant que tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Mais c'est un très très grand travail. Très dur. C'est facile à le dire en théorie. C'est pour ça qu'il précise, ici, qu'une vraie simcha peut venir seulement si je suis croyant et je sais que dans ce qui m'arrive maintenant, chaque détail de ce qui m'arrive maintenant est prévu par un Kadosh Baruch Hu. Pour le bien.
Est-ce qu'on peut dire des gens qui ont passé la Seconde Guerre mondiale ?
C'est la même chose. Tout ce que Dieu a fait, il le fait pour le bien. Maintenant, je ne dis pas qu'on le comprend. Être joyeux, ça ne veut pas dire j'ai compris ce qui s'est passé. Je n'ai pas compris. Parce qu'on a dit. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Mais ça n'empêche pas que je reste Bessimra, parce que je sais qu'Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait. Tout, on sait qu'on est Bessimra. Non, attention, c'est-à-dire que c'est... Monsieur Benita, on n'est pas en train de dire qu'on vit dans le déni.
Non, mais enfin, la manière dont c'est présenté, ça veut dire qu'il faut se réjouir de tout ce qui nous arrive.
Non, j'ai pas dit ça. Je dis qu'il faut garder la joie intérieure. C'est très compliqué. C'est facile pour un enfant d'être joyeux. Vous savez, des fois, il y a une personne qui m'a dit, quand je passe devant un jardin d'enfants, j'envie les enfants. Parce qu'ils n'ont pas de soucis, les enfants. Tu les vois, ils sont là avec un vrai sourire, avec une vraie simra. Tu les vois, ils courent, ils n'ont pas de soucis, il n'y a pas de problème. Et une fois, une personne est passée à côté, il m'a dit, tu sais, j'aurais bien aimé être comme un enfant comme ça. Si tu cours, t'as pas de soucis, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, tout est pris en charge par ses parents, par je ne sais qui. Tout est pris en charge.
Vous l'avez été.
Oui, mais il aurait aimé comme ça maintenant. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Il a raison.
La nostalgie.
Ça veut dire qu'après, quand on grandit, la difficulté, c'est de continuer à être joyeux, avoir la joie de vivre comme un enfant, tout en réalisant les problèmes comme un adulte. C'est beaucoup plus compliqué, ça. Et ça, plus on avance, plus c'est difficile.
C'est dur ce que vous nous demandez là.
Non, c'est un problème, psychologique important, c'est une situation.
Alors, on va continuer un peu dans le texte, dans les mots. Erhu memale kol almin, elyonim vetartonim. Comment la emuna est de dire, vous savez, il y a des gens, dès qu'on leur parle de Dieu, Dieu ils l'ont renvoyé dans les sphères célestes. Il dit oui, Dieu il est tout en haut. Comme histoire de dire, Dieu il sait ce qui se passe en haut, mais ce qui se passe en bas, il n'est pas conscient des détails. Il y a des gens qui pensent comme ça, c'est une erreur bien sûr. Il te dit, la émouna, c'est de savoir que Dieu est présent et que Dieu est conscient jusqu'au moindre petit détail de ma vie. Chaque petit détail, à Kadosh Baruch Hu, il est au courant. Un petit peu comme un patron qui est omniprésent. Seulement, les patrons, en général, des fois, ils le font dans le sens négatif. Les employés, ils supportent pas ça. Quand t'as un patron qui est là, qui te lâche rien, même pas le, t'as fait un pas, il a déjà vu ton pas. Mais à Kadosh Baruch Hu, et encore, même tu respires, d'accord? Pas voilà, parce que le patron c'est pour ses intérêts. Le patron c'est pour ses intérêts. Mais à Kadosh Baruch Hu, c'est les mots du Zohar, il nous dit que, le Zohar nous dit qu'à Kadosh Baruch Hu, il est mémalé que l'almine. À Kadosh Baruch Hu emplit tout le monde. Ça veut dire qu'il n'y a pas un endroit, il n'y a pas un détail, il n'y a pas un aspect, il n'y a rien dans le monde qui échappe à Kadosh Baruch Hu. Donc chaque petite chose qui m'arrive a été prévue et voulue par un Kadosh Baruch Hu. Peu importe que je la comprenne ou je la comprenne pas, elle a été voulue par un Kadosh Baruch Hu. Quand je réfléchis comme ça, automatiquement, je me dis que si ça a été voulu par un Kadosh Baruch Hu, donc certainement quelque part, c'est pour mon bien. Maintenant, je le comprends, ça je sais pas si je le comprends. Que je comprendrai plus tard, j'espère. Mais le fait même que je sais qu'il y a quelqu'un qui gère la situation, c'est déjà rassurant. Vous savez, une fois, quand j'étais à la yeshiva, j'ai entendu une fois un rav qui avait donné un exemple comme ça. Il avait dit, c'est comme une fois, tu vois un enfant qui voit son père faire quelque chose et l'enfant ne comprend pas. L'enfant a l'impression que ce que son père fait, c'est pas normal, c'est pas bien. Mais d'un autre côté, il sait que son père, c'est un type bien. En tout cas, c'est l'image qu'il a de son père. Alors, c'est intéressant parce que d'un côté, l'enfant ne comprend pas ce que le père fait et il comprend pas au point que ça le frustre. Il est pas content, il est triste, il est pas content. Mais d'un autre côté, au fond de lui, il est profondément rassuré parce qu'il se dit, je comprends pas, mais je sais que mon père sait ce qu'il fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ce qu'on a dit tout à l'heure à Léo. Qu'on peut avoir des situations dans la vie comme ça, des situations paradoxales, hein, comme ce que vous avez pu vivre il y a un mois, dans lesquelles subitement il y a quelque chose qui nous arrive. D'un côté, on comprend pas ce qui nous arrive, et on peut pas comprendre parce que ça nous dépasse. Mais d'un autre côté, profondément, on sent que c'est prévu par un Kadosh Baruch Hu. Et on sent que lui, c'est ce qu'il fait. Donc, j'ai une frustration interne, tout en ayant une assurance, je suis rassuré profondément, je sais que Kadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il fait. Je sais que Kadosh Baruch Hu emplit le monde. Je sais que Kadosh Baruch Hu, il n'y a aucun détail sur terre qui l'échappe. Chaque petit détail, chaque respiration que je vais avoir, il n'y a rien qui n'échappe à Kadosh Baruch Hu. C'est difficile à se convaincre, mais quand on arrive à ce niveau-là, on est intouchable. Va filou mlo kola aretz alazo. Je continue dans les mots. Ou kvodo itbarer. qu'en fait, tout ce qu'il y a dans les mondes, c'est l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Vekula kame kelachashiv mamash. Et que devant Akadosh Baruch Hu, tout est insignifiant. Ça veut dire que c'est Dieu qui décide tout, finalement. Il n'y a rien qui peut se tenir devant Akadosh Baruch Hu. Vehu levado hu ba elunim va tartonim mamash. Que moshe haya levado kodem shetime bereshit. Alors, ça, c'est un point très important qu'on avait étudié dans le chapitre 21.
La main droite. Il est susceptible.
David. Lorsque Dieu a créé le monde, avant de créer le monde, qui y avait sur terre?
Il n'y avait personne.
Hein?
Il n'y avait pas de terre.
Donc qu'est-ce qu'il y avait?
Tohu-bohu.
Hein?
Tohu-bohu.
Donc Dieu était seul. Bon, maintenant Dieu, il a créé le monde. Il est toujours seul, Dieu?
Non.
Il y a le monde avec,
il y a avec ses créatures.
Maintenant, il y a le monde.
Oui, mais il est seul.
Vous savez ce que dit le Zohar? Le Zohar dit Dieu est toujours seul. Comment c'est possible?
Il est joué, c'est joué.
Mais on est là, on n'est pas là, nous.
Il est dans Dieu.
Le monde, nous, c'est Dieu.
Lui, c'est joué, c'est ça, non?
Oui, lui c'est Dieu. On est Dieu.
Non, le monde est un ensemble de Dieu.
Non, c'est même pas un ensemble, c'est Dieu. Ça fait partie de Dieu. Et c'est pour ça, d'ailleurs, on le dit tous les matins.
Ça fait partie.
Atahu, Atahu, Mishé Nivra Olam, Atahu, Atchelo Nivra Olam. On le dit tous les matins. On dit Dieu, tu es resté le même. Le même. Avant que le monde ait été créé, après que le monde ait été créé, tu restes toujours unique. C'est pas que avant Dieu il était seul, maintenant tu comprends, il y a des nouveaux paramètres, il est plus seul, il y a le Satan, il y a les forces du mal, il y a les gens qui veulent faire des bêtises, il est plus seul, il y a d'autres paramètres à prendre en compte, ça n'existe pas. La même façon qu'Akadosh Baruch Hu, il gérait tout avant parce qu'il n'y avait rien à gérer, la même façon il gère tout aujourd'hui puisqu'en vérité tout est en lui. Tout, les anges, tout ce que vous voulez. Il n'y a rien qui n'échappe à Akadosh Baruch Hu. Quand
non,
on...
Mais, il n'est pas seul, il est avec les anges.
Non,
les anges chez lui,
même les anges chez lui.
Bah oui.
Et monsieur Benita, c'est lui.
Alors monsieur Benita, ce soir, vous allez rentrer à la maison, votre femme va dire, qu'est-ce que t'as appris Charles au cours de Tania? Vous allez lui dire, j'ai appris, je suis Dieu. On connaissait, je suis Charlie, je suis juif, maintenant je suis Dieu. Il va dire à sa femme, je suis Dieu. Avant vous dites, je suis Charlie, elle dit, bon, je suis Charles, Charlie, ça va. C'est parce qu'il s'appelle Charles, Charlie. Hein?
Mais tu peux te laisser aller aussi, tu dis c'est bon, c'est Dieu qui gère.
C'est dangereux parce que...
C'est ça?
Bien sûr c'est dangereux. Mais oui, bien sûr.
C'est de Dieu.
Tu peux te... Mais c'est la réalité. Mais c'est la vérité.
Tu peux te laisser aller aussi. Et dire, il y a Dieu qui gère, c'est bon.
Oui, tu as raison.
Ce qui m'arrive, c'est Dieu qui l'a décidé, c'est bon.
Donc, ce que je veux dire par ici, ce que je veux dire par là, c'est d'expliquer... C'est bon? Bon. Est-ce que vous avez dit les Chaim?
Les Chaim.
Michael, on te resserre?
Non. T'as pris quoi? De la vodka, prends du whisky maintenant. Tu vas changer de couleur.
Les Chaim.
Mais non, j'avais
pas.
Hein?
Ah, c'est bon, t'inquiète pas. Les Chaim, Leilu Nishmat, Hanania ben Mazal, ben David. Alors, on est en train de dire l'importance de la Simcha. Vous savez que on va s'arrêter un petit peu plus longuement sur ça maintenant, puisque ce soir c'est le mois de, c'est pour Purim Katan, on va s'arrêter plus longuement sur la Simcha. L'importance de la joie, à quel point c'est important d'être joyeux. Comment quand on est déprimé, c'est la source de tous les problèmes. Quand une personne est joyeuse, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vouloir faire la tête à quelqu'un qui vous sourit? Tu rentres à la maison, tu veux faire la tête à quelqu'un, à ton fils, à ta femme, à ta fille, à qui tu veux, et il te fait un grand sourire. Qu'est-ce qui se passe?
Hein?
T'arrives pas à lui faire la tête. Pourquoi? Parce que Shlomo Améler te dit comme ça. Le roi Salomon, dans Michelet, dans les Proverbes, il dit... De la même façon que quand vous allez devant un étang d'eau, vous vous voyez. Alors, à l'époque, il n'y avait pas de miroir, hein, donc c'était l'exemple. Ça veut dire que si dans l'étang d'eau, tu vois quelqu'un qui fait la tête, ça veut dire que qui c'est qui fait la tête? C'est moi. De la même façon, quand je fais la tête à quelqu'un, il finira par lui aussi me faire la tête. Tu rentres à la maison et me chénef. Ben oui. Tu finis me chénef toi aussi. D'accord? Par contre, si tu rentres à la maison et quelqu'un il est besimcha, la joie est communicative. De la même façon que la déprime est communicative. L'importance de la simcha. Quand on est joyeux, automatiquement, on n'arrive pas à faire la tête. Automatiquement, on est au-delà des problèmes. Vous savez ce que dit le Rosh, Rabbeinu Asher? Rabbeinu Asher, dans son commentaire sur la Gemara, il dit... que la majeure partie des maladies viennent à cause d'un manque de simra. Ah bon ? D'où il sort ça ? Écoutez bien. Il fait un développement intéressant. Il dit comme ça. Il dit, lorsqu'une personne n'est pas bien, qu'est-ce qui se passe ? Il mange, mais il mange mal. Mais quel est le stress ? Donc lorsqu'il n'est pas bien, il mange et il mange mal. Donc déjà, il n'arrive pas à manger. Et même ce qu'il mange, il digère mal. Or, on sait, et aujourd'hui on le sait, qu'à part bien sûr les microbes et les virus, etc., la majeure partie des maladies qu'on peut avoir par nous-mêmes, c'est lié à cause d'une mauvaise digestion. Maïmonide dit clairement dans son commentaire que si on avait une bonne digestion, c'est-à-dire si on digérait normalement, on est protégé de la majorité des maladies. Bien sûr, parce que quand tu es triste, quand tu es stressé, qu'est-ce qui se passe ? Quand tu es stressé, tu n'arrives pas à manger, ou bien tu n'arrives pas à digérer. Quand tu n'arrives pas à digérer, ça mène des maladies. Une bonne digestion protège de toutes les maladies.
Je vais manger de la soupe, ça va. Quoi.
On peut mal digérer une soupe aussi. Quand on n'est pas bien, on n'a pas l'appétit. Ça veut dire, non, mais tu t'imagines. Ça veut dire, on se rend pas compte à quel point hein, la simcha, on se rend pas compte à quel point.
Hein,
l'huile d'olive. On a parlé d'huile d'olive. On se rend pas compte à quel point la simcha a un effet extraordinaire sur nous, que ça nous protège de toutes les maladies. Ils ont fait une étude récemment. On va faire moins sur texte aujourd'hui. Hein. D'abord parce que c'est une occasion particulière, en plus c'est pour Yom Katan. Ils ont fait une étude récemment, dans laquelle ils ont prouvé que les gens qui étaient joyeux, donc qui étaient moins stressés, ils vivaient plus longtemps et qu'ils avaient beaucoup moins de risques d'avoir une crise cardiaque et d'avoir un arrêt cérébral. Est-ce que vous savez ça ? C'est prouvé statistiquement. Ils ont prouvé que les gens qui sont joyeux, qui n'ont pas de stress, ils ont moins de risques et le cholestérol, etc.
Et le rire, c'est un médicament.
C'est le plus beau médicament qu'on connaît.
Voilà.
Comment ça se fait ? C'est ce qu'on est en train de dire ici. Seulement, ce qu'on te dit ici, c'est que pour être Bessimcha, il faut être convaincu que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Peu importe ce qui m'est arrivé. Et c'est communicatif. Ça veut dire que c'est vraiment un effort à faire. Vous savez, des fois ça nous arrive par exemple. Bah, je vous dis, des fois ça m'arrive. Tu vas au travail et t'as des choses qui se passent pas comme t'aurais voulu. Et après tu rentres à la maison.
Ça arrive ça.
Ça peut arriver.
Ah, hein, ça arrive tous les jours.
Il y a des choses qui se passent au boulot ou quand t'es dehors, en déplacement, pas comme t'aurais voulu.
L'avenir, ça te parle.
Et bon, la vérité c'est qu'au boulot tu peux pas lâcher tes nerfs parce que ça se fait pas. D'accord ? Après t'es dans la voiture, il y a les embouteillages, ça te rajoute encore sur les nerfs. Et là, t'arrives à la maison, c'est là que t'es comme une boule de nerf, d'accord ? Et il suffit d'une petite pichenette pour exploser, une petite étincelle. Alors écoutez, Rabotaï, voilà une technique du Roche encore, Rabbeinu Asher. Rabbeinu Asher te dit, quand tu rentres chez toi à la maison, avant de rentrer chez toi à la maison, tu respires, tu inspires, et tu oublies ce qui s'est passé.
Tu balances tout.
C'est pas taper sur les enfants, c'est une chambre.
Tu dis, ce qui s'est passé, je laisse dehors, dans le porte-manteau. Quand tu enlèves ton manteau, tu poses le problème avec son porte-manteau. Maintenant, quand tu rentres, tu ne vas pas faire subir à tes enfants et à ta femme le problème que tu as eu au boulot. Ils y sont pour rien.
Mais...
Non, ils rajoutent pas. Ils rajoutent pas, ils amplifient. Comme tu n'es déjà pas bien, donc tu supportes plus, donc du coup, ça marche pas. Et ça, c'est mamash un conseil du Roche. Un conseil de Roche Rabbeinu Asher, qui dit comme ça. Il dit, en parlant de la simcha, ça c'est le Roche qui dit que, en étant besimcha, ça nous protège d'une grande partie des maladies. Et sur ça, puisqu'on a parlé tout à l'heure du Rabbi de Kotsk, le Rabbi de Kotsk disait comme ça. Il disait, il y a deux choses dans la Torah, on l'a dit, et ça fait quelques mois dans le cours de Tania. Deux choses dans la Torah. La première chose, c'est pas une avéra. Mais ça peut faire plus de mal que toute la vérote. Et la deuxième chose, c'est pas une mitzvah, mais ça peut faire plus de bien que toutes les mitzvot. Alors la première chose, c'est quoi ? La tristesse, la déprime. Il y a aucun endroit dans la Torah où vous trouverez aucune mitzvah qui te dit que tu ne seras pas déprimé. Il n'y a pas, c'est pas écrit. Mais ce que la déprime peut faire, peut causer à une personne, aucune avéra peut faire. D'un autre côté, on a une mitzvah, quelque chose qui n'est pas une mitzvah, pardon, qui est la simcha. C'est pas une mitzvah. Vous trouverez aucune mitzvah qui te dit, soit besimcha. Alors, on connaît la chanson Mitzvah Gedola Liot Besimcha Liot Besimchata Amit, mais c'est faux, c'est pas une mitzvah. C'est une chanson. C'est pas une mitzvah. N'est-ce pas, Abraham, tu confirmes? Hein? Ah, d'accord, c'est autre chose. Là, c'est la mitzvah de la simcha défaite. Il n'y a pas de mitzvah d'être besimcha. Mais les bienfaits que peut faire la simcha, aucune mitzvah peut faire. Pareil aussi, il y en a qui disent une autre version. Ils disent que la mitzvah qui peut faire le plus de bien, la chose qui peut faire le plus un bienfait, même si c'est pas une mitzvah, c'est aller au mikvé pour les hommes. Un homme n'a pas d'obligation d'aller au mikvé, à part la veille du Kippour, éventuellement, la veille de Rosh Hashanah. Un homme n'a pas l'obligation d'aller au mikvé. Mais le bienfait que peut faire de l'eau mikvé, aucune mitzvah peut faire. La purification de l'âme. D'accord? C'est-à-dire que vraiment, c'est très très important d'aller au mikvé, d'avoir un mikvé, de faire un mikvé. Bezrat Hashem.
Amen.
En tout cas, voilà. Vous avez compris. Alors, ce qu'on veut dire ici maintenant, c'est expliquer l'importance de la simcha.
Mais il faut changer. Alors, je voudrais, l'état d'âme, là, maintenant.
Alors justement, je voudrais m'arrêter maintenant ce qu'on a expliqué au cours de vendredi soir et m'arrêter un peu plus longuement dessus. Être besimcha, il y a des gens qui pensent que être besimcha, c'est quelque chose qui est... Après, ouais, je change après. Il y a des gens qui pensent que être besimcha, c'est quelque chose qui est naturel. Soit tu l'as, soit tu l'as pas. Vous savez, on dit par exemple chez les Breslev, on parle beaucoup de la simcha. Ok? Alors une fois, et chez les Chabad, on parle beaucoup d'ouverture. Une fois, j'ai quelqu'un qui est très intelligent, qui m'a dit comme ça. Il m'a dit, les Chabad, ils parlent beaucoup d'ouverture, de flexibilité. Et les Breslev, ils parlent beaucoup de simcha. Il a dit, j'ai pas vu de personne aussi triste qu'un Breslev et aussi ferme qu'un Chabad. Il faut bien qu'on se fasse très profonde. Ça veut dire qu'en vérité, quand on apprend les bienfaits de la simcha, c'est là qu'on comprend qu'est-ce que c'est une vraie simcha et qu'on comprend que des fois, on peut simuler une simcha, mais en vérité, on n'est pas dedans. C'est-à-dire que être simcha, c'est pas boire un coup et dire, ça y est, je vais danser. C'est pas ça, la simcha. Ça, c'est bon, c'est pour nous stimuler, pour nous aider. Ça peut nous aider. Comme mon père a dit tout à l'heure, il a dit, ça peut nous aider à être besimcha, dire les chaïm. Mais les chaïm, c'est pas, ça veut dire, l'alcool, c'est pas la simcha. Le but, c'est d'être besimcha, même sans alcool. D'être un état de simcha intérieur. Et ça, c'est un travail. C'est un travail qui est mental. De se dire que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Tant que je ne fais pas ce travail, je ne peux pas être besimcha. Alors, vous savez, on dit que les imbéciles sont toujours heureux. Vous savez, on dit que les imbéciles sont toujours heureux. Pourquoi? Parce que l'imbécile, il ne se rend pas compte du problème. Hein? Imbécile heureux. Quand on était à l'école, il y avait une insulte, c'était imbécile heureux. Alors. Non, mais c'est vrai. Bon. Les imbéciles sont toujours heureux. Pourquoi il est toujours heureux? Parce qu'il n'est pas conscient du problème. Il est inconscient. Comme il est inconscient, c'est pour ça qu'il est heureux. La Torah te dit autre chose. La Torah te dit, c'est facile d'être heureux quand tu es imbécile ou quand tu es inconscient comme un enfant. Le plus difficile, c'est d'être heureux même quand tu es intelligent. Et ça, la vérité, en général, une personne, plus il est intelligent et moins il est joyeux. Parce que plus il est intelligent et plus il comprend les détails et les nuances et les subtilités, et il comprend qu'il n'y a pas forcément des raisons d'être joyeux.
Mais il faut être entre les deux.
Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de gens intelligents et joyeux. En général, plus ils sont savants et moins ils sont joyeux. C'est la réalité. D'ailleurs, l'image qu'on a quand on s'imagine un savant, c'est une image d'une personne qui a le visage austère. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais c'est vrai. Alors donc,
c'est pas un trait de caractère.
Exactement. C'est un travail. C'est pour dire que plus on a l'intelligence, et plus l'intelligence nous pose et nous empêche de faire l'écart d'être besimcha. Et là vient l'effort de te dire, il faut quand même être besimcha avec ton intelligence. Comment je suis besimcha? Parce que tu dois te dire que, malgré tout ce que j'ai compris, bien que a priori d'après ce que j'ai compris ça ne va pas, je sais au fond de moi que tout est voulu par Akadosh Baruch Hu, et que ce que fait Akadosh Baruch Hu c'est pour le bien. Que ce soit pour moi, ou que ce soit pour les autres. Ça c'est déjà plus difficile. Mais on est obligé. Si on passe pas par ce qu'il est en train de dire ici, se dire que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, c'est impossible d'avoir une vraie simcha. Et sur ça, le Rambam Maïmonide, il insiste beaucoup sur l'importance de la simcha. Maïmonide, il dit que quand on est besimcha, ça annule les décrets. Quand on n'est pas besimcha, ça apporte des décrets, chas v'shalom. Ça veut dire comme ça, je vous donne un exemple très simple. Quand par exemple, votre enfant a fait une bêtise, et vous voulez le punir, et il vous fait un grand sourire.
Tu l'as fait la semaine dernière, ça.
Qu'est-ce qui se passe?
Rien.
Non, mais attends, écoute bien, qu'est-ce qui se passe?
Rien.
Quoi, rien?
Ne touche pas, on ne peut pas.
Hein? Pourquoi?
T'as envie de rire.
Alors, tu sais comment dit le Zohar? Le Zohar résume ça en trois mots. Simcha, mematéket dinim. La joie adoucit le din. Exactement comme l'enfant. C'est-à-dire que son père, il était là et voulait je ne sais pas quoi. Mais dès qu'il voit le père, que le fils, il est Bessimra, il est joyeux, ça adoucit le dîme. De la même façon, quand nous, on est Bessimra, même si Akadosh Baruch Hu, il a décidé des choses pour nous, il nous voit tellement joyeux, il dit, bon, laisse tomber, il est joyeux celui-là, je ne veux pas lui toucher à sa joie, vas-y, continue mon fils, continue comme ça. Même si des fois, il voulait nous punir. Alors que d'un autre côté, quand une personne est déjà Mchenef, tu dis, bon, bah tiens, s'il est Mchenef, tiens, je vais lui donner une raison d'être vraiment Mchenef.
Je rajoute du coup.
Dieu préserve. Non, mais c'est très sérieux ce que je vous dis.
Quand tu as un enfant qui a fait une bêtise et que tu es, on va dire, attendri, c'est pas réellement attendri, c'est seulement par la joie. T'es attendri par la joie de l'innocence.
Pas la main. Pas seulement ça. T'es attendri par le fait que tu n'as pas, t'as pas envie.
Faut couper, faut casser un peu.
D'enlever la joie de quelqu'un qui en a. On aime bien voir les gens joyeux. T'as pas envie de casser cette joie.
Aussi, hein.
Tu vois ce que je veux dire?
Il est en train de te sourire, il se moque de toi.
C'est pas la même chose. Non, je parle pas la même chose. Je parle d'une joie.
Il se fout de toi.
Non, je parle pas de ça.
Tu viens faire une connerie, puis tu viens et il te fait des sourires comme ça.
T'as envie de punir ton fils, d'accord? Tu le vois, il est avec ses copains, en train d'être joyeux, en train d'être content. Tu dis, bon, quel rapport maintenant à la droite?
On va mettre la gauche.
Quel rapport? Ça passe pas. Parce que la simcha, c'est même à tekhet les dinim. La simcha, ça adoucit le miracle. Ça adoucit, pardon, les dinim. Sur ça, on explique aussi en chassidout la chose suivante. Que, à propos de la simcha. On dit que la simcha a une force d'aller au-delà de tous les problèmes. Et on donne un exemple. On dit, imaginez deux personnes qui se parlent pas. Deux personnes qui ne se supportent pas, ne peuvent pas se parler. D'accord? Et un des deux, il va marier son fils ou sa fille, parce que dans la Gemara, c'est écrit qu'il y a une plus grande simra quand on marie sa fille que quand on marie son fils, pour un homme. Pour la femme, c'est le contraire. Bon, j'ai pas encore marié mes enfants, mais toute personne qui a marié les enfants me confirmera certainement qu'il y a une simra particulière quand on marie sa fille, pour l'homme quand il marie sa fille. Là, écoutez bien. Imaginez, Monsieur Rouva et Monsieur Shimon ne peuvent pas se parler. Mais vraiment, quoi. Ils ne peuvent pas se parler. Et Monsieur Shimon n'a même pas été invité au mariage. Il n'a pas reçu la carte, il n'a pas été invité, rien du tout.
Il a brillé par son absence.
Attendez. Maintenant, Monsieur Rouven marie sa fille. Et qui débarque au mariage?
Shimon.
Qu'est-ce qui va se passer? Alors écoutez ce que... Justement, c'est ça le problème. Écoutez ce qu'explique en chassidout. On dit que normalement, la simcha d'une personne doit être tellement grande que quand on est bessimcha, on va au-delà des problèmes. Quand on est déprimé, chaque petit détail devient un problème. Quand on est joyeux, on arrive à aller au-delà du problème. Le problème ne dérange plus. Quand par exemple une personne, il est pas bien, il va venir à Fabringen, il va venir à Simchat Torah, il va venir à Purim, le problème n'est pas résolu. Mais il se sent bien. Pourtant, il y a 2 heures, il se sentait pas bien. Pourquoi maintenant il se sent bien? Parce que la simcha l'a élevé au-delà du problème. La simcha a cette force d'élever une personne au-delà du problème. Sur ça, la Gemara, elle résume ça en 3 mots, elle dit simcha poret set geder. La joie peut briser toutes les limites, peut casser un mur. C'est-à-dire que des fois, on a un mur devant nous, et qui c'est qui peut casser ce mur? C'est la simcha. À ce propos, je vais vous raconter une anecdote. On raconte qu'une fois, il y avait, je crois que c'était Rabbi Yonatan Eifshitz. Rabbi Yonatan Eifshitz, il était très intelligent, très très intelligent. Et il y avait le roi, enfin le gouverneur de cette époque, qui voulait souvent le tester. Alors une fois, il a dit la chose suivante. Il y a une histoire similaire dans la Gemara, mais ça c'est une histoire de Rabbi Yonatan Eifshitz. Une fois, donc, le gouverneur voulait le tester. Alors il lui a dit comme ça. Il a dit, vous dites les juifs que vous êtes très intelligents, tu dis que tu es très intelligent. Et en plus, j'ai entendu que chez vous, vous dites que les sages sont plus forts que les prophètes. C'est écrit comme ça, que les sages sont plus forts que les prophètes. Racham a dit, Pinavi. Alors il a dit, j'ai une question pour toi, Rabbi Yonatan. Je vais sortir aujourd'hui avec mon cheval pour aller me balader en dehors de la ville. Il y a 2 portes de la ville. Une porte ici, une porte là-bas. J'ai envie que tu restes au palais maintenant. Tout de suite, je vais sortir. Tu vas rester au palais, mais avant que je sorte, tu vas consigner par écrit par quelle porte je vais emprunter pour retourner au palais. Et tu consignes maintenant par écrit. On ferme ça avec le cachet royal et tu m'attends. Je vais aller faire ce que je vais faire. Je vais retourner. Et on va voir, est-ce que vraiment tu savais par quelle porte je suis passé. Bon, Rabbi Yonatan, tout de suite, il a pris un papier, il a écrit. Il a mis dans l'enveloppe, ils ont cacheté, le roi est parti. Maintenant, le roi est parti, il est parti, et le roi se pose la question, il dit, quelle porte j'empruntais au retour? Alors, il y avait une grande et une petite. En général, le roi empruntait la grande porte, parce que c'est le caveau du roi d'emprunter la grande porte. Alors il s'est dit, comme d'habitude j'emprunte la grande, je vais emprunter la petite, parce que le juif il a dû penser à la petite. Après, le roi il s'est dit, mais non, puisqu'il a déjà pensé à la petite, alors au contraire, il faut penser à la grande, parce que comme ça je vais faire le vis-à-vis. Après il va se dire, mais non, mais puisqu'il a pensé que je vais penser la petite au lieu de la grande, et donc du coup il a été là, il ne savait pas quoi faire. Il était là devant la porte, il ne savait pas quoi faire. La grande, la petite, la grande, la petite, la grande, la petite, la grande, la petite, il ne savait pas quoi faire. À la fin, le roi il n'en pouvait plus, il a dit à ses serviteurs, il a dit, bon écoutez, dans la muraille, vous allez me casser les briques et vous allez faire une troisième porte. Comme ça, celle-là, il n'a pas pensé le juif. Il rentre au palais. On ouvre la missive et qu'est-ce qu'on voit? Le Rav Rabbi Yonatan Epshitz avait écrit une phrase de la Mishnah Sanhedrin, la Gemara Sanhedrin. Melech poretz geder la asot lo derech. Le roi a le droit de casser une route, enfin, de casser une barrière pour se faire une route. Il est déjà prémise.
Il avait la réponse.
Il avait la réponse. Dans la Gemara en plus. La réponse dans la Gemara. Mais l'air pour être guédère. C'est-à-dire qu'il a compris que la mentalité d'un roi, ça c'est ce que la Gemara lui a appris. Et de là, le rabbi dit la même chose. Il dit de la même façon qu'on voit dans cet exemple. Enfin, c'est un exemple. On voit que le vous voyez, on voit comment. Ça veut dire que normalement, il y a l'option A, l'option B. Et des fois, tu ne sais pas laquelle prendre. Mais il y a une option C. L'option C, c'est que tu passes dans le mur. Et que tu casses le mur et tu passes. Ben, c'est écrit aussi Simcha, c'est la même phrase. Simcha poretz geder. La joie brise les limites. C'est-à-dire, quand t'es devant un problème, normalement, t'as l'option A, l'option B. Et des fois, t'es bloqué, tu dis, mais c'est pas possible. L'option A, elle est bloquée, la porte A, elle est fermée, la porte B, elle est fermée. Je peux pas passer. Même si je veux, je peux pas avoir de solution. Des fois, on a des situations comme ça dans la vie. Il n'y a pas de solution. T'es bloqué, il n'y a rien. Là, on te dit, quand tu es Bessimcha, quand t'as une joie intérieure, cette joie t'aide à trouver des solutions en cassant le mur. Une solution que même pas tu peux penser un jour. Ça, c'est les bienfaits, ça, c'est la force de la Simcha. C'est pour ça que c'est très important de pas attendre des moments comme Pourim pour être Bessimcha. Le rabbi explique qu'en vérité, toute l'année, on doit être Bessimcha. C'est pourquoi Pourim, on va insister sur la Simcha. Parce qu'il y a des jours dans l'année dans lesquels on fait le plein de Simcha pour toute l'année. De la même façon, par exemple, qu'à Rosh Hashanah, on fait le plein de jugement pour toute l'année. À Kippour, on fait le plein de Teshuvah pour toute l'année. À Sukkot, on fait le plein de Simcha pour toute l'année, etc. De la même façon, à Pourim, on fait encore une fois le plein de Simcha pour toute l'année. Ça veut dire que la fête a une influence sur toute l'année. Pardon ? C'est un double plein, il en faudrait quatre. Oui.
David, dis-moi, qui c'est arrivé ?
Le rabbin avait prévu.
Donne-moi ton verre.
Je suis pas à la place du rabbin, je peux vous dire. Non, il était pas couvert. Ah non. Il était pas couvert parce que la phrase, elle disait, il casse la barrière. Ah oui. Ah, bien sûr qu'il a pris un risque. Bien sûr qu'il a pris un risque.
David.
Mais il savait qui il avait en face de lui.
Le whisky. Mendy, un peu de.
Allez, Chaim.
Chaim. Pourri. Jackie. Je te ramène. Abraham. Une petite vodka.
Tiens, on boit le.
David, pour refaire une tournée.
Là, c'est ce qu'il est en train de faire.
Il a refait une tournée.
Prends un petit
peu. Rabotaille ce soir. Vous ne devez pas rentrer chez vous le même que vous avez été quand vous êtes parti.
Bah, c'est pas possible.
Il faut que quand vous rentrez chez vous, votre femme, elle dise, tiens, t'as changé. Pas tiens, t'es bourré.
Elle va dire c'est
pourri
avant l'heure.
C'est pourri. C'est pourri,
Katane. Mais qui fait, elle s'en va conteste.
Vous déguisez demain ou... Demain, on vient déguiser.
Il n'y a pas besoin de déguisement pour être Bessimcha.
Il y a besoin d'être déguisé quand même. Il faut jouer le rôle. C'est comme le sourire.
Non, il y a pas besoin.
Forcer à sourire, il faut se forcer à...
Ça, c'est au début, mais après, il faut être souriant, mamache, à l'intérieur.
Allez.
Nickel, t'as offert des couleurs, tu vois.
Attends.
T'as 18 ans maintenant.
Hein? Il y a tellement de raisons aujourd'hui pour être pas bien.
Daido.
Tellement de raisons aujourd'hui, quand on cherche pour ne pas être pas bien, tellement de raisons autour de nous. Quand on voit, quand on analyse l'actualité autour de nous, la vie, les problèmes qui arrivent, il y a toutes sortes de raisons. Et celui qui veut ne pas être pas bien, il a toutes les raisons au monde pour ne pas être pas bien. Et on ne pourra pas lui en vouloir. Seulement, la Torah te dit comme ça, tu ne peux pas tenir.
Excusez-moi.
Une personne qui n'est pas bien, il peut pas avancer dans la vie.
Mais ce n'est pas une question d'éducation, tout ça.
Non, je pense que l'éducation, ça va aider au début de la vie, mais après, il y a un travail intérieur à faire.
Mais si vous éduquez un enfant de croire tout le temps en Dieu, tout ce qui vous arrive, c'est Dieu qui l'a fait, il est évident qu'il va vivre dans un...
Je ne parle pas que de croyance, parce que vous avez un croyant qui est déprimé et un croyant qui est optimiste. La croyance, ce n'est pas suffisant.
C'est pas ça. On lui met que tout ce qui lui arrive, c'est le bon Dieu qui veut.
Oui.
Donc, par conséquent, tout ce qui lui arrive... Il dit c'est le bon Dieu, donc je dois être content de ce qui m'arrive, tout simplement.
Oui, mais est-ce qu'il est déprimé ou parce mais que. Moi j'en connais, moi, des croyants déprimés.
Non, mais ça fait partie de l'éducation. Non, ce que vous nature, donnez aux enfants.
On disait ce matin, il y a ceux qui sont positifs.
Oui, exactement.
Moi,
il est bon, il est bon.
Nous, on était, façon, on le, était comme ça, on nous a appris à croire au bon Dieu.
De toute façon, oui, on a
et
ça
tout gagné, ce qui d'accord. nous arrive, c'est le bon voilà, Dieu. Gamzeletova, Gamzeletov, et tout le temps, malgré que ça soit bien ou mal, toujours accepter ça comme un fait du
bon. Oui, mais après, il faut savoir comment le prendre.
Maintenant,
non, c'est indépendant, c'est indépendant.
Non, déjà, non. déjà, tu le sais.
Non, mais, savoir, c'est... Non, mais de le savoir, c'est une chose, mais après, comment toi, tu dois l'accepter. Mais c'est ça. Ils sont arrivés, mais il te dit de bien l'accepter.
Non, mais la vérité, nous, est-ce vrai ou pas, Dan?
Mais c'est dangereux de prendre mal.
Mais nous, c'est comme ça.
Non, tu dis, qu'est-ce que j'ai
mis? Malgré que tu viens avec une main qui se balade comme ça, où on doit te mettre le plat, c'est pas grave, mon fils. C'est
bon, Dieu, tu veux.
Bon. Si jamais tu as été élevé comme ça et que tu crois, il est évident que tout ce qui arrive, c'est
non, mais là, c'est ça qui est vraiment du travail qui est.
Il y a des situations où c'est très
difficile.
Voilà. Bon, il a dit.
Non, mais on n'est pas bilingue.
Je ne comprends pas, je comprends pas l'anglais. Alors.
Non. Il a dit c'est Dieu qui a voulu ça. Et c'est vrai. Cette phrase-là, on l'entendait souvent.
C'est vrai. Savoir que c'était voulu par un cadre.
Maintenant, on peut la prendre avec une joie, on peut la prendre avec une peine, mais on sait que ça vient du Dieu. Déjà.
Oui, mais on le prend mieux si on le prend avec la joie.
Alors maintenant, quel est... C'est vrai que ce que tu nous expliques, de prendre ça avec joie et de positif... Et
être optimiste.
Optimiste voilà. au maximum, d'être positif et positiver le cas. Mais nous,
ça tout le temps le
dès notre enfance, monsieur...
Benissa. C'est vrai
ou pas? Oui.
Et un enfant, ici, hein.
Voilà.
Il est positif.
On parle français, hein.
Il est positif. Exactement.
Je
vais vous raconter une anecdote.
Vous sous-titrez, monsieur Benita.
Je vais vous raconter une anecdote.
Vous traduire.
À Botaille. Hein? Oui, on va chercher des sous-titreurs. Vous savez,
que la joie nous amène à être
dans le déni.
Hors sujet.
Oui, voilà. Non, tu as raison, 100%. Non, c'est pas ce qu'on a dit.
Bah oui. Non, mais y a aussi
être optimiste, c'est pas être dans le déni.
Non,
je vais vous raconter une anecdote pour montrer ce que ça veut dire. Vous savez, le rabbi, en 1978, il avait eu un arrêt cardiaque. En plein Shmini Atzeret, parce que Shmini Atzeret, je crois pas dans le fait comme Simchat Torah.
C'était
Shmini Atzeret. En plein milieu des danses de Simchat Torah, quoi, il était là, il a eu un arrêt. Bon, c'était assez compliqué. Suite à quoi, il a dû être alité, etc. Bon, c'était pas simple. Et à un moment, vers la fin de la période où il était alité, donc il parlait avec le docteur. Il parlait avec le docteur, bon, il essayait de parler, donc quelles sont les conséquences, comment il doit modifier son... Parce qu'il a dû modifier son planning par rapport à ça, etc. C'est normal, maintenant, sa santé a été affectée, donc il devait modifier son planning. Et le docteur, il lui a dit, écoutez, dans votre situation, vous avez 25% de chance que ce qui vous est arrivé vous arrive encore. C'est-à-dire que l'arrêt qui vous est arrivé, dans les mêmes circonstances, vous avez 25% de chance qu'il peut en arriver. Le rabbi au tac au tac lui a répondu comme ça. Il a dit, pourquoi vous me dites que j'ai 25% que ça re-arrive? Dites-moi plutôt que j'ai 75% de chance que ça ne re-arrive pas. C'est plus que ça. Ça veut dire que ça dépend, tout est dans la tête. Maintenant, c'est très intéressant cette réponse. Il n'a pas répondu, non, vous racontez n'importe quoi, tu te baiseras ta chaîne, il y a 100%. Il n'a pas répondu ça. Non, mais c'est important ce que je suis en train de dire. Parce qu'il aurait pu dire, vous racontez des bêtises, un Emouna, etc. Moi, j'ai la Emouna, ça n'arrivera pas. Il n'a pas répondu ça. Parce que c'est faux de répondre ça.
Ouais.
À Kadosh Baruch Hu, il a donné un poste au docteur. Et le poste du docteur, c'est de nous dire ce qu'il pense et on doit tenir compte de ça. Il n'a pas répondu ça. Il a dit, avec ce que le docteur m'a dit, je le regardais du côté positif.
Voilà.
Ça. Ça veut dire, je garde ce que le docteur m'a dit, je suis pas dans le déni, je suis conscient qu'il y a 25%, mais je regarde pas le 25, je regarde le 75. Je regarde que j'ai frôlé la mort, et que maintenant j'ai 75% de vie, de 75% de chances que ça me arrivera pas. Et ça, c'est déjà une raison d'être Bessimra. Parce que je me dis, regarde, j'aurais pu être à zéro, maintenant je suis à 75.
Ouf.
Donc ça, c'est déjà une raison d'être Bessimra.
Donc
on relativise, et donc on est optimiste. Parce que je dis, ça aurait pu être pire, c'est beaucoup mieux. Quand on réfléchit, quand on arrive à réfléchir comme ça, on va affronter n'importe quel problème de la vie. Le problème sera là, c'est pas ça ce qui va régler le problème. La Simra va pas forcément régler le problème. Mais moi, je vivrai mieux le problème, et automatiquement, je trouverai plus facilement la solution au problème qui va être parfois en moi. C'est pour expliquer, mamash, l'importance de la Simra de faire un effort pour ne pas être déprimé, pas bien, pour ne pas faire la tête. Ça marche pas, ça sert à rien. Ça sert à rien. Une personne qui a une nature comme ça, il faut se travailler pour ne pas, pour casser ça, pour enlever ça, parce que ça m'amache, ça mène des choses pas bien dans la maison, ça mène des choses pas bien au boulot, ça mène des choses pas bien dans sa personne, on n'est pas bien. Pourquoi? La vérité, des fois, franchement, on fait la tête pour rien, pour des bêtises. Des bêtises, rien du tout. Il se dit, mais pourquoi je fais la tête? C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a rien. Il est là, il fait la tête, il n'est pas bien. C'est rien, c'est des bêtises, laisse tomber. Ça vaut pas ta santé. Ne perds pas ta santé dans un truc comme ça. Sois optimiste, laisse tomber, rabaisse ton honneur, et c'est pas grave.
C'est
hein. Non, c'est pas les temps.
C'est les choses de la vie.
Non.
C'est les choses de la vie.
Mais justement, il faut pas se laisser courir. Il faut pas se laisser courir par les choses.
Mais les bretelles, t'avais demandé au début, est-ce qu'il y a une mitzvah d'être joyeux? Alors, il n'y a pas de mitzvah d'être joyeux toute la journée. Il y a par contre une mitzvah d'être ovède à chaque mitzvah.
Ça, d'accord. Les mitzvot.
Faire les mitzvot, mais
c'est un Rambam qui dit comme ça. Justement, puisque t'as parlé du Rambam, comme il y a plusieurs qui n'étaient pas là, je vais rappeler une histoire que j'ai racontée vendredi soir. Parce que vendredi soir, on a beaucoup parlé de la Simra. Si on parle beaucoup de la Simra, c'est le mois de Hadar. On a parlé de la vie de Maïmonide. Pour moi, ça me passionne grave, cette histoire de Maïmonide. Vous savez que Maïmonide, il a une histoire très particulière. D'ailleurs, j'ai raconté qu'une partie vendredi soir. Maïmonide, lorsqu'il est né, il me semble que oui, c'est sa mère. Sa mère est Nifteret à sa naissance. C'est-à-dire qu'il a perdu sa mère à sa naissance. Bon. Donc du coup, son père s'est remarié. Son père s'appelait Rabbi Maïmon. Il s'est remarié avec une femme qui apparemment ne s'occupait pas... Enfin, c'est pas qu'elle s'occupait pas de Ramba, mais... elle s'occupait pas de lui comme son fils, on va dire ça comme ça. Ce qui est un peu normal, bon, oui ou non, je sais pas. En tout cas, c'est passé comme ça. Donc il a beaucoup souffert. Ça veut dire que depuis sa tendre enfance, il n'a pas été éduqué par sa maman. Et vous savez, son père, il est un peu tiraillé entre son fils d'un côté et sa deuxième femme de l'autre côté. Vous savez, des situations comme ça, c'est très compliqué de remariage. Et donc, Rambam a grandi comme ça. Ce qui se passe, c'est que Rambam, quand il était à l'école, ça rentrait pas dans sa tête. Jusqu'à l'âge de 8 ans. Il y en a qui disent 11 ans. Ça rentrait pas. Il était analphabète. Ça rentrait pas. C'était bouché.
Ça va, 11 ans.
Et il raconte que son père le frappait. À l'époque, c'était comme ça. À l'époque, c'était comme ça, l'éducation. Son père le frappait. Sa mère aussi, certainement. Et le grondait. Il lui dit, mais jusqu'à quand tu vas être comme ça? Qu'est-ce que va devenir de toi? Et lui, il n'arrivait pas. Ça rentrait pas. Imaginez cette situation. Un enfant qui n'a pas de mère, qui n'arrive même pas à étudier, c'est-à-dire qu'il n'a aucune réussite. D'accord? Ni dans les études, ni dans sa vie, il n'a rien.
Il a 11 ans.
D'accord? Attendez, écoute l'histoire. Et il a vécu comme ça. Mais non, mais tu ne te rends pas compte. Quelqu'un comme ça, à l'âge de 11 ans, il est mûr comme un autre de 30 ans. Je peux te garantir ça. Ça, c'est des gens qui sont très, 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 très mûrs. Et il ne sait pas quoi faire. Et il raconte, dans ses écrits, dans une lettre, il raconte comment, une fois, il s'est enfui de la maison en pleine nuit. Il s'est enfui de la maison en pleine nuit et il est parti dans la synagogue qui était ouverte. Il a ouvert le Aron HaKodesh et il s'est mis à pleurer à Kadosh Baruch Hu. Lui dire à Kadosh Baruch Hu, aide-moi. Il n'en peut plus. Partout, il y a des problèmes. À l'école, il y a des problèmes. À la maison, il y a des problèmes. Il n'en peut plus. Et là, il raconte, il dit, j'ai pleuré. Il ne sait pas combien de temps, mais il a pleuré. Et il dit, à ce moment-là, j'ai senti que les portes de ma Chorma se sont ouvertes. Ça y est, j'ai senti que les portes de mon cerveau se sont ouvertes. C'est là qu'à ce moment-là, ça commence à devenir ce qu'il est devenu. Ensuite, il est revenu à la maison. Il sentait comme un optimisme, il raconte, comme un optimisme, une simra, qu'il sentait que ça y est. Mais il y avait toujours des problèmes avec son père, et avec...
Marâtre.
Il avait toujours des problèmes. Il s'est enfui. Il s'est enfui de la maison, il est parti dans une yeshiva. Il est parti dans la yeshiva. Là, il avait, je crois, environ 12 ans, comme ça. Il arrivait à une yeshiva. Une yeshiva d'une très très grande époque, j'ai oublié son nom. Et il lui a dit, je viens pour étudier à la yeshiva. Il lui a dit, mais t'as pas un père, t'as pas... C'était un très très grand. à l'époque des Gonim. Il dit, mais t'as pas un père, etc. Et il lui raconte l'histoire. Et là, ce Gaon, ce Rosh Yeshiva, il lui dit, bon, j'ai entendu ton histoire, je vois que t'es sincère, je vois que tu veux aller de l'avant, je te garde un an. Et dans un an, je te renvoie chez ton père. Pour aller voir comment ça se passe. C'est ce qu'il a fait, il est resté un an, et il a tout appris. Il a appris, etc. Une autre personne.
Il s'est rentré?
Bien sûr, c'est rentré, ça y est, c'est les portes de la Chorma sont ouvertes. Donc, va au Hachem, ça s'est ouvert, va au Hachem, ça y est, il peut respirer enfin. Un an plus tard, on l'a renvoyé, donc pas environ à l'âge de la bar mitzvah, on l'a renvoyé chez ses parents. Et là, bien sûr, son père, il a vu comme ça, il dit, ah, mais mon fils, qu'est-ce que je t'aime, qu'est-ce que t'es beau, qu'est-ce que t'es gentil. Bon, c'est un grand, docteur, un grand. Docteur. Mais là, il a demandé la permission à son père, il dit, papa, je demande l'autorisation de repartir à la yeshiva. Et il est reparti à la yeshiva. Va au Hachem. Il est reparti à la yeshiva, et Baruch Hashem, il a grandi comme ça en Torah. Il s'est marié, Baruch Hashem, grand Talmid Raham, etc. Quand il s'est marié, il voulait étudier la Torah. Il voulait s'adonner à l'étude de la Torah. Alors bon, il y a toute une histoire là-bas. Au début, il y avait un peu la belle famille qui aidait, etc. À la fin, ils n'avaient plus. À la fin, il y a son frère. Son frère qui s'appelait Rabbi David, qui était dans les affaires. Qui était dans les affaires, qui savait étudier aussi la Torah. On a même des responsables de lui. Mais qui était beaucoup dans les affaires. Et son frère lui dit, écoute, moi je suis beaucoup dans les affaires, et toi je vois que tu réussis bien dans ton étude. Il était à ce moment-là en train de faire son projet de Mishneh Torah. Le projet de Mishneh Torah, c'est le projet, donc il a compilé toute la Torah. On ne se rend pas compte de l'œuvre majeure de Maïmonide. Il a compilé toute la, c'est-à-dire qu'il a pris toute la Gemara, c'est des discussions éparses comme ça. Et il a compilé ça en un code de loi. On n'a pas idée, je veux dire, sans ça on n'aurait pas eu ni Shulchan Aruch ni rien du tout. C'est énorme ce qu'il a fait. Mais il faut du temps. Il faut beaucoup de temps, il faut du temps. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait Rambam? Il y a eu son frère, donc, qui s'appelait Rabbi David, qui lui a dit, écoute ce que je te propose. Moi, je vais aller dans les affaires. Ce que je te propose, toi, arrête la parnassa. Je m'occupe de toi. Tu vas étudier pour moi, il va étudier lui aussi, mais bon. Toi, tu réussis, va faire ton étude, moi, je fais la parnassa et je m'occupe de toi. Ça a duré comme ça pendant près de 10 ans. Son frère s'occupait de lui, et lui, il a pu étudier tranquillement, il a pu avancer, etc. Qu'est-ce qui s'est passé après? Au bout de 10 ans, son frère, il est parti en embarcation, avec un bateau. Il avait tout misé sur une grosse affaire. Et le bateau a échoué en mer. C'est des marins qui sont revenus, qui ont raconté, qui étaient à côté. Ils ont dit, ils ont tout échoué, ils sont morts, etc. Il est revenu. Ça veut dire qu'il n'est pas revenu. Maintenant, le problème, c'est que son frère, il avait contracté des dettes. Parce que c'était tellement une grosse affaire, que du coup, il avait emprunté de l'argent. Parce qu'il était juste un gros coup. Il avait emprunté. Il faisait beaucoup de l'import-export, etc. Il était très très grand dans ça. Donc du coup, Rambam, il se retrouve avec des prêts à rembourser qui ne sont pas les siens. Avec une famille, sa famille à nourrir, alors que ça fait des années qu'il n'a pas travaillé, qu'il est en train d'étudier la Torah, avec sa belle famille, sa belle sœur et ses enfants à nourrir, tout ce monde-là à nourrir, il n'a rien. Il en a fait une déprime pendant, il y en a qui disent un an, il y en a qui disent 2 ans. Il n'est pas sorti de chez lui. Pour vous dire, Rambam, tout aussi grand qu'il était, il en a fait une déprime. Et là, quand il est sorti, il a décidé, il a dit, je vais apprendre un métier. Parce qu'on ne pouvait pas gagner de l'argent de la Torah, donc il a pris un métier. Quel métier il a appris? Médecin. C'est là qu'il a appris à être médecin. Il n'est pas né médecin. Ça, il dit, bon, ben, il n'y a rien à... Puisqu'il a un métier, alors tiens, je vais trouver un métier qui me permet de faire mon emploi du temps. Et c'est là qu'il a commencé à apprendre les écrits des grands médecins arabes de l'époque. Il a appris en arabe. D'accord? Et il a appris, donc, puisque les plus grands médecins à l'époque, c'était arabe. C'était les plus grands à l'époque. Je ne connais pas les noms, enfin il ne donne pas les noms. Mais en tout cas, il dit qu'il a appris chez les plus grands médecins arabes, et apparemment c'était les plus grands de l'époque. Et donc il a appris là-bas la médecine, et progressivement c'est devenu un médecin. Baruch Hashem, il a une parnassa. Grâce à cette parnassa, quelques heures par jour il travaillait, il consultait même pour le sultan, etc. Et grâce à ça, il a pu subvenir aux besoins de sa famille, et aux besoins aussi de sa belle-sœur et de ses enfants. Baruch Hashem. Sauf que Baruch Hashem, c'était un médecin qui marchait tellement bien, qu'avec le temps... Le sultan, etc., et tous les grands voulaient être gérés par lui. Il était très fort, Maïmonide. Vous savez, il avait une force extraordinaire. C'est que lui donnait un régime alimentaire aux gens qui faisait en sorte qu'ils tombaient jamais malades. Et d'ailleurs, une fois, le sultan, il lui a dit, mais il y a un problème. Il a dit, moi, mes copains, ils me racontent, enfin, mes copains, c'est-à-dire des autres rois, ils me racontent comment ils étaient malades, ils allaient mourir, leur docteur, il a fait quelque chose. Toi, tu fais rien, toi. Moi, montre-moi quelque chose. Montre-moi, je vais mourir, tu me récupères comme ça. Et il lui a dit, moi, ma force, c'est que vous tombez pas malade. C'est ma force. Bon, en tout cas, c'est un très très grand médecin. Préventif. Et donc, il est devenu un médecin tellement important, tellement respecté, qu'il s'est fait des ennemis.
Ben oui.
Qui est comme ennemi? Des autres docteurs qui voulaient sa place. Et donc, ces docteurs ont fait beaucoup de choses, etc. Et à chaque fois, ils essayaient des complots pour essayer de montrer que Maïmonide était un imposteur. Une fois, deux fois, trois fois, ça marchait pas. À la fin, il y a eu une fois, ils n'ont pas eu le choix. Il y a toute une histoire là-bas, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais à la fin, il y a eu une situation qui s'est passée. C'est qu'ils ont fait un complot, que Maïmonide n'avait pas le choix. C'est soit il transgressait une mitzvah, soit il devait s'enfuir. Donc, il n'a pas eu le choix, il s'est enfui. Il y a eu un complot, il y a eu une sorte de meurtre qui s'était passé, il y avait tout un truc. Et Maïmonide, dans une situation, ils l'ont mis dans le mur. Ça veut dire qu'il devait, soit il fait quelque chose contre la Torah, soit il se sauve. Il a décidé, en pleine nuit, il s'est sauvé. Et hop, les épreuves retombent. Il repart dans les épreuves. Et depuis ce moment-là, il a erré tout le restant de sa vie. Il a erré. Il est passé par l'Égypte, il est passé par le Maroc, Fès, d'accord? Il est passé par l'Espagne, il est passé par Israël. Il est passé par toutes sortes d'endroits dans le monde, il a tourné, il a erré. Et quand une personne de cette envergure, on voit à quel point, dans son livre Mishneh Torah, il insiste sur l'importance de la joie, dans ses lettres, dans les lettres qu'il adresse par exemple aux Juifs du Yémen, dans les lettres qu'il adresse aussi par exemple aux Juifs qui étaient des Juifs, Igeret Hashmad. Igeret Hashmad, c'est une lettre qu'il adresse à des Juifs, des sortes de Maran. Ce n'est pas les Maran qu'on connaît aujourd'hui, mais des sortes de Maran, qui étaient des gens qui ils s'étaient convertis officiellement, mais officiellement ils sont restés Juifs. Et tout le monde les avait rejetés. Et Maïmonide leur dit, vous inquiétez pas, vous allez vous en sortir, il faut essayer de quitter cette situation, mais vous allez vous en sortir, il faut positiver. Non, bon, on n'a pas idée le nombre de lettres qu'on a retrouvé aujourd'hui dans le guide des égarés, dans les Guéret Hashmad, dans les lettres qu'il adresse aux Juifs du Yémen, etc. Dans lesquelles le point qui ressort de toutes ces lettres, c'est le côté optimiste et le côté positif. Comment d'un côté, il a de l'empathie pour eux, il dit je comprends ce que vous vivez, je vous souhaite de vous en sortir, mais qu'il leur montre à chaque fois que le plus important c'est l'optimisme. Et il leur dit il faut rester optimiste, vous allez vous en sortir, vous verrez tout va bien. On a même vu Shabbat, ce que tu as dit Abraham, que d'après Rambam, et Besimcha, c'est une mitzvah de la Torah. Ça, c'est un exemple extraordinaire pour nous montrer comment être Bessimra, c'est pas seulement quand tout va bien, et c'est pas seulement à Purim, c'est pas seulement à Simra Torah, et c'est pas seulement quand on est bourré. Être Bessimra, c'est un état d'esprit pour lequel on se travaille. Parce que vous voyez, moi, la vérité, la première fois que j'avais lu cette histoire, ça m'avait étonné. Je me dis quoi, Maïmonide, il est resté enfermé chez lui pendant 1 an, 2 ans, déprimé.
C'est curieux,
ouais. C'est curieux. Je sais pas, c'est comme si, voilà, c'est comme si je vais vous dire, le rabbi, il reste enfermé dans son bureau pendant. Oui. Bien sûr, on a des témoignages aujourd'hui, il y avait des choses qui ont déprimé le rabbi, bien sûr.
Et c'est alors, pas un mal, finalement.
Parce que ça veut dire que même des tzadikim d'une envergure pareille, même dans la Gemara, il y a plein d'histoires comme ça. Tzadikim comme ça. Que même des tzadikim d'une très grande envergure comme ça, des fois il y a des situations imprévues qui arrivent, des nouveaux challenges, devant lesquels ils sont pas prêts.
Je vois le rabbi de Kotz.
D'accord? Tous. Le rabbi de Kotz, c'est la fin de sa vie, il était déprimé. D'accord?
S'enfermer dans sa chambre.
D'accord? Il y a beaucoup d'histoires comme ça. Rabbi Meir. D'accord? Rabbi Meir dans la Gemara. Plein de grands maîtres, des maîtres, des géants, qui sont passés par des époques dans leur vie, dans lesquelles ils étaient pas bien. Et ne pas être bien, c'est pas un signe de faiblesse. C'est un signe que c'était un nouveau challenge qu'ils devaient surmonter. D'accord? C'est un signe qu'ils avaient un nouveau challenge que je vais surmonter. Et Baruch HaShem, ils ont réussi à le surmonter. Ils ont réussi à le surmonter pour avoir la Simcha. Donc, Rabotai, ce qu'on va conclure, avec ça le cours. Ce que je veux, on n'a pas trop fait un texte aujourd'hui parce que je voulais volontairement ce cours aujourd'hui, je voulais que ce soit autour de la Simcha. Ce que je veux qu'on retienne le cours d'aujourd'hui, c'est qu'on se rappelle l'importance de la Simcha. L'importance de la Simcha à la synagogue. L'importance de la Simcha au boulot. L'importance de la Simcha à la maison. L'importance de la Simcha avec les amis. David! Vas-y, assis-toi. T'as toujours mis Simcha, toi. Alors. Au HM. On sait pas comment t'es à la maison.
Bah, à la maison, c'est pas pareil.
On va savoir.
On sait pas. Ah, c'est une autre question. On sait jamais comment ils sont à la maison. Je parle pas de toi, je parle en général.
On le saura demain soir.
Demain soir, c'est à quel chez toi?
Ma femme m'a dit que c'était la semaine prochaine. Samedi.
Samedi ou mardi, un des deux.
Samedi soir.
En tout cas, waouh. En tout cas, Rabotaille pour conclure.
Donc voilà, c'est vraiment sur le temps.
Deux.
À quelle la maison, a priori, ça sera Shabbat prochain.
Moussa Shabbat prochain. Donc, Rabotaille, ça veut dire la chose suivante. Ça veut dire que on doit faire un effort pour être Bessimcha. Être Bessimcha dans notre vie, être Bessimcha partout où on va. Et la seule façon d'être réellement Bessimcha, c'est de se dire que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, et que Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait, et que même si des fois il y a des situations dans la vie qui sont problématiques et qui sont pas simples, comme on a vu les exemples de Maïmonide, etc. Combien d'exemples de Tzadikim on a vu qui sont passés par des situations difficiles? Savoir qu'en vérité, tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Ceci dit, je voudrais juste terminer avec une histoire. Pour montrer que, même si on est Bessimcha, ça ne veut pas dire qu'on est dans le déni.
C'est toi ?
Oui, c'est...
C'est
beurre ? Ah, c'est beurre ?
Alors, ah, au beurre, oui.
C'est pas ah, c'est pas parfait.
Bah, la pâte est au beurre, la compote est aux pommes.
Mais ça va.
Bon, le temps que vous mangez votre compote, je vais vous raconter une histoire. Après, je vais manger moi aussi.
Mais dis-moi, je n'ai pas mangé, c'est pas normal.
Le temps que vous mangez la compote, hein, vous voulez une histoire ou pas?
Oui.
Allez, on y va, vous aimez les histoires. Le temps que vous mangez la compote, je vais raconter une histoire pour montrer que bien que d'un côté il faut être besimcha, mais d'un autre côté il faut pas être dans le déni des problèmes. D'accord, c'est un peu, si vous voulez, c'est la contrebalance du cours de du cours commentaire pendant
le président.
Alors attendez. Il m'a donné. Ne vous inquiétez pas. Une fois, Rabbi Zeev Kitzes. Rabbi Zeev Kitzes était un des plus grands élèves du Baal Shem Tov.
T'as quel point d'incassable?
Vous voulez l'histoire ou pas? Bon, alors. Rabbi Zeev Kitzes. Sinon, je prends le micro, hein. Il y a un micro à la maison, là.
Une fois, Rabbi Zeev Kitzes,
il voulait faire sa alia.
Écoute l'histoire.
Il demande à son maître le Baal Shem Tov. Son maître était le Baal Shem Tov. Il lui dit, Rabbi, je vais faire l'alia. Et à chaque fois, le Baal Shem Tov, il répond à toutes ces questions, mais cette question, il répond pas. Il contourne la question. Chaque fois, le Baal Shem Tov, il dit, ah, on verra une autre fois, on verra demain, on verra après-demain. Et lui, il comprend pas, il veut faire l'alia. Pas faire l'alia fiscalement. Il veut faire l'alia parce que spirituellement, il veut faire sa alia.
Ah, il y a, oui, c'est vrai, il a une alia fiscale.
Bon, c'est pas une alia fiscale. Pas une alia refuge. Une alia parce que vraiment, il veut s'élever. Même pas pour se sauver d'un problème. Et à chaque fois, le Baal Shem Tov, il répond pas. Après, une fois, vraiment, il a insisté. Le Baal Shem Tov lui dit, bon, tu veux y aller? Vas-y. Mais j'ai juste une chose à te demander. Quand on te pose une question, réfléchis avant de répondre. Dis, ouais, bien sûr, on va faire un rapport. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, il prend le bateau. À l'époque, c'était très long, c'était pas un bateau qu'on devait prendre, c'est plusieurs bateaux qu'il devait prendre depuis la rue, depuis l'Ukraine pour arriver jusqu'en Israël, plusieurs bateaux. Il prend plusieurs bateaux, et à un moment, une des escales, le bateau, il se plante en route, etc., ils sont en galère, ils finissent par atterrir sur une île, le bateau il s'est cassé, etc., catastrophe, ils sont là sur une île. Non. Lui, là, il est perdu, il sait pas quoi faire, il a failli y passer, il est sur une île paumée, il sait pas quoi faire. Bah, au Hachem, il voit un arbre, avec un peu des fruits qui ont poussé, il commence à s'asseoir, à faire une bracha, etc. Il se dit, bon, maintenant, il faut chercher quoi faire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il marche un petit peu, et là, qu'est-ce qu'il voit? Dans la route de cette île, comme ça, il passe par des chemins, etc., des arbres, etc. Il voit comme ça des petites maisonnettes. Mezouza devant. Bah, il dit, waouh, intéressant. Voici le scoop. Alors, toque à la porte. Il y a un vieux juif, barbe blanche, qui l'ouvre la porte. Et qui dit, ah, Brochim Abaim, etc. Bah, non, il n'a même pas le temps de penser qu'est-ce qu'il fait là, celui-là, etc. Il l'accueille, lui, il est crevé. Il dit, bon, on donne à manger, on donne à boire. Il va dormir, il se réveille. Et le lendemain, entre-temps, Il apprend qu'il y avait un bateau qui passait par la même île et qu'il doit repartir. Et là, à ce moment-là, son hôte le raccompagne et il lui dit, alors, d'où vous venez? Il dit, ah ben, je viens d'Ukraine et je vais en Israël. Il dit, mais comment vont les Juifs d'Ukraine? Il dit, ah, Baruch Hashem, vont très bien les Juifs d'Ukraine. Baruch Hashem, mais Simra comme ça, grande Simra. Et là, il dit, ah, Baruch Hashem, vont très bien. Ah bon, ils s'en vont, etc. Et là, il reprend le bateau pour continuer vers Israël. Et quand il est dans le bateau, il s'y met mince. Non, j'ai pas réfléchi avant de répondre. Quoi, Baruch Hashem? Il souffle, le juif d'Ukraine. J'aurais dû dire que Baruch Hashem, mais il souffle, c'est pas facile. Quand que j'ai Baruch Hashem comme ça? Et ça l'a travaillé, il se dit, c'est bizarre cette histoire-là. D'où est arrivé comme ça, quelqu'un avec barbe blanche en plein milieu d'une île? Ça l'a travaillé, il a dit, il faut que je retourne chez le Baal Shem Tov. Il est retourné chez le Baal Shem Tov. Il a fait le chemin de retour. Donc, c'est-à-dire qu'il, bon, il y a première arrivée possible, première escale. Il a pris un bateau, de l'autre côté, il est retourné. Et là, dès que le Baal Shem Tov le voit, Baal Shem Tov lui fait comme ça, du style... Imbécile. Enfin, imbécile, mais presque, quoi. On est passé à côté quelque chose de grand. Il dit quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, tu sais qui c'est que tu as vu?
Presque le patron.
Tu sais qui c'est que tu as vu? Avraham Avinu. Avraham Avinu, ça fait plusieurs siècles qu'il n'arrête pas de se plaindre à Kadosh Baruch Hu. Qu'il n'arrête pas de dire à Kadosh Baruch Hu, les Juifs, ils n'en peuvent plus, on veut leur Mashiach. Alors, bon, Dieu lui dit, non, mais t'inquiète pas, ils tiennent, ils font tchouva, ils avancent, petit à petit, etc. Et Avraham Avinu, avec le chesed qu'il a, dit, non, je veux pas. Et il fait un shkamba dans le ciel, il laisse pas tranquille. Il fait un scandale. À la fin, Dieu lui a dit la chose suivante. Il lui a dit, voilà, Avraham Avinu, je vais te laisser descendre sur terre. Et on va chercher un juif, le juif le plus honnête qu'on connaisse, un juif honnête, qui est pas un tzadik, etc., mais quelqu'un de bien, Rabbi Zev Kitzes, parce que Rabbi Zev Kitzes, il a jamais dit un mensonge de sa bouche. Alors on va t'envoyer, on va s'arranger pour que Rabbi Zev Kitzes, on va s'arranger pour que ton bateau il échoue, etc. Comme ça, tu vas lui poser la question et il va te répondre. Il t'a posé la question. Il t'a dit comment vont les juifs en Ukraine? Parce que toi, tu dis la vérité. Tu lui réponds comme ça, Baruch Hashem, tout va bien. Avant ma venue, il avait rien à dire. Elle retournait en haut, quand elle a dit, tu vois, je t'avais dit.
Donc,
Rabbi Zev Kitzes, il est resté jouer quand même. Là, c'est la suite de l'histoire.
Il n'a pas fait sa lia.
Toute une histoire. Après. Bon, ça fait. Non, il n'a pas fait la lia.
Il n'a pas fait la lia.
Bon, ça, c'est une autre histoire qui laisse déjà. Bon.
Le Baal Shem Tov voulait pas. Hein.
C'est déjà l'heure, mais. Vous savez, après le Baal Shem Tov, ça c'est déjà plus sujet à polémique. Après, à la fin, il a dit, mais Rabbi, pourquoi vous voulez pas me laisser faire la lia? Ça, c'est déjà une histoire. Je vous laisse le suspense sur cette histoire. Je donne juste la fin, mais je vous explique pas. Le Baal Shem Tov, il a dit, tu vas aller au mikvé à Meziboj, dans la ville de Baal Shem Tov, en Ukraine. Tu vas aller au mikvé qui est à côté. Et quand tu vas tremper ta tête dans le mikvé, tu penses à moi. Et après, tu reviens me voir. Alors, il va au mikvé, trempe sa tête, et là, tout d'un coup, il est propulsé ailleurs. Qu'est-ce qu'il se voit? Il se voit comme ça, il fait un zoom, il se voit voler, arriver, en Eretz Israël, à Yerushalayim. Il s'approche du mont du temple. Il voit le temple, il approche. Il avance. Il voit le temple, le Kodesh et Kodeshim, le Saint des Saints. Et là, il voit le Kodesh et Kodeshim, le Saint des Saints. Il ouvre, il a tellement la soif, il rentre. Il ouvre le rideau, et qu'est-ce qu'il voit? Il n'y a pas l'Arche Sainte. Il dit, mais où est l'Arche Sainte? Il entend une voix qui dit, l'Arche Sainte est à Meziboj, chez le Baal Shem Tov. À mes idées. Bon, ça veut dire, être Bessimcha, oui, mais demander Mashiach, quand même, c'est pas incompatible. On est Bessimcha, c'est pas qu'on est content quand on est en exil. On est Bessimcha, mais on demande quand même Mashiach.
Bon, ben dimanche, ça va être franc. Il a rien
manqué. Ouais, je peux pas donner cours et manger, on peut pas être au four au moulin.
Non, mais tu peux commencer à manger.
On peut pas être au cours et au moulin. Alors.
Hein? Voilà, il était au four et après il est venu au moulin. C'est beau,
bon. Ouais.
Il était tout le temps en train de
danser. Lui aussi, il a souffert.
Ouais, il est tout le temps
en train de danser. Tu sais que David Améler, il est passé aussi par des époques dans sa vie.
C'est
très difficile. Et qu'est-ce qui le permettait d'évacuer? C'était la musique. On sait que toute personne qui connaît la musique, toute personne qui est musicien, sait que la musique, hein, ça, non, ça, ça évacue.